France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, la phase 2 de la trêve entre Israël et le Hamas. Première discussion aujourd'hui en Israël qui reçoit le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Nous serons en direct de Jérusalem. Il y a un an, jour pour jour, mourait Alexis Navalny, principal opposant au régime de Vladimir Poutine. Et bien ce matin à Moscou, plusieurs centaines de partisans se sont recueillis au cimetière malgré le risque de représailles judiciaires. La politique en France avec Jean-Luc Mélenchon qui rompt les amarres ce matin définitivement avec les socialistes au sein du nouveau Front Populaire. La recomposition de la gauche, nous en parlerons avec notre invité Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. En sport, nous irons en Suisse pour la poursuite féminine de biathlon. Les Françaises ont le bronze. Enfin, nous vous raconterons l'histoire de ce bronze, justement bronze de Camille Claudel, vendu cet après-midi aux enchères à Orléans, estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros. Un bronze retrouvé par hasard, nous narrera Faustine Calmel. Et puis le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, eh bien l'après-midi sera assez calme. Hein ?
Oui, avec un soleil voilé sur quasiment tout le pays.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Mais comment donc envisager une fin de guerre durable entre Israël et le Hamas et auparavant libérer tous les otages encore retenus par l'organisation islamiste ? Eh bien c'est l'objet de la phase 2 de la trêve en cours. La phase 1 va s'achever à la fin du mois. Cette phase 2 commence donc à être envisagée aujourd'hui à Jérusalem en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Depuis plusieurs heures ce matin, l'Américain rencontre Benjamin Netanyahou. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem, RFI pour France Inter. L'Américain presse Israël à concrétiser le cessez-le-feu à Gaza. Hein.
Oui Eric, et cet entretien entre Benjamin Netanyahou et Marco Rubio vient de s'achever. Le président Trump et moi-même œuvrons en pleine coordination, proclame le premier ministre israélien lors de cette conférence de presse qui se déroule en ce moment. L'Iran est la plus grande source d'instabilité dans la région, affirme de son côté Marco Rubio. Le secrétaire d'État américain tente donc de persuader ses interlocuteurs israéliens de relancer la négociation sur la seconde phase de l'accord signé avec le Hamas. Selon le département d'État, le but est d'obtenir la libération de tous les otages. De son côté, Israël, après une série de consultations sécuritaires, propose d'accélérer la phase 1 de l'accord pour récupérer au plus vite 6 otages toujours vivants. Benjamin Netanyahou indique qu'il va convoquer une réunion du cabinet de sécurité pour décider des prochaines étapes, une temporisation qui fragilise encore plus le cessez-le-feu. Ce matin, une frappe israélienne a fait 2 morts et plusieurs blessés à l'est de Rafah. Et puis, Marco Rubio n'est pas venu les mains vides. 1800 bombes MK-84 de près d'une tonne chacune sont arrivées en Israël la nuit dernière. Ce sont des munitions qui avaient été bloquées par l'administration Biden.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem, où le secrétaire d'État américain Marco Rubio vient donc de parler de trêve. Les deux hommes viennent de se rencontrer. Eh bien, voici un autre dossier qui lie les deux pays, celui de l'aide humanitaire dans la région, à Gaza notamment. Aide humanitaire mise à mal depuis qu'Elon Musk, l'Américain, coupe les crédits publics. L'administration Trump veut réformer l'organisme humanitaire USAID. Et avec quelles conséquences au Proche-Orient ? Eh bien, à Jérusalem, Thibault Lefèvre, vous avez rencontré Sylvie, c'est un prénom d'emprunt, elle veut rester discrète. Sylvie travaille pour le bureau de USAID au Moyen-Orient et elle vous a raconté de l'intérieur, Thibault, cette crise inédite au sein de cette institution.
Le gouvernement américain s'est donné 90 jours pour réformer USAID. Depuis cette décision, Sylvie a perdu des collègues, l'essentiel de ses missions et son temps au sein de l'institution semble désormais compter.
J'ai plus de mails. Je vis de jour à jour. Moi et mes collègues vont devoir quitter le territoire dans moins de 30 jours. C'est très violent.
Il y a aussi des conséquences concrètes sur le terrain pour tous les porteurs de projets liés à USAID. À Gaza, par exemple, un tiers de l'approvisionnement est financé par l'organisme américain et le risque d'un écroulement du soutien auprès de 2 millions de Palestiniens déplacés qui survivent sur un territoire meurtri est plus fort que jamais.
Actuellement, il y a des actions humanitaires financées par l'USAID sur le territoire de Gaza pour donner de l'humanitaire, mais c'est que 90 jours de la nourriture, de la santé et tout ça. Ça ne représente pas la globalité des besoins à Gaza en ce moment.
Selon un mail interne consulté par le New York Times, sur les 200 fonctionnaires de l'organisme au Moyen-Orient, 21 seulement devraient conserver leur poste. Un recours en justice est à l'étude. Et pour le moment, et jusqu'à nouvel ordre, la réforme de Donald Trump et de Marco Rubio est suspendue.
Voilà donc pour ce nouvel exemple de guerre idéologique qu'impose Donald Trump et son administration. L'Europe, donc, dans le viseur américain, le vieux continent accusé de faire reculer la démocratie. Eh bien, Jean-Noël Barrot, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, en a débattu hier encore à Munich avec plusieurs représentants américains. Le chef de la diplomatie française rétorque que personne ne peut nous imposer son modèle. Jean-Noël Barrot l'a réaffirmé il y a quelques minutes sur France Inter. Il était l'invité de l'émission Questions politiques.
Le discours de J.D. Vance sur la liberté d'expression, ses liens avec un parti d'ultra-droite qui flirte avec l'idéologie nazie, c'est une question assez vertigineuse qui se pose aux États-Unis, pas à l'Europe, parce que nous n'allons pas changer nos modèles, précisément parce que nous considérons que le débat public doit être protégés. Et nous n'accepterons pas les ingérences.
Alors je pose, ils sont encore nos amis ou pas, les Américains?
Ne nous laissons pas intimider parce que nous avons une conception propre de ce que c'est que le débat public, la démocratie, les campagnes électorales, etc. D'autres grandes puissances ont des modèles différents. Ils ne parviendront pas à nous les imposer.
Et Jean-Noël Barrot, il y a quelques minutes avec Karine Bécard, le chef de la diplomatie française, a aussi confirmé qu'Emmanuel Macron organisera demain à Paris une réunion avec les principaux dirigeants européens pour discuter de l'avenir de l'Ukraine. L'Europe qui doit donc de moins en moins compter sur le bouclier américain. Hier, le président ukrainien a d'ailleurs pressé les Européens d'investir sans attendre dans une armée européenne. Le président Macron plaide lui aussi pour davantage d'investissements communs au niveau européen, quitte à faire fi de la règle européenne des 3% de déficit. Bonjour Frédéric Seitz.
Bonjour Eric.
Rédaction internationale de Radio France. Passer outre la règle des 3% de déficit, l'idée fait son chemin également au plus haut sommet de l'Europe.
Oui, c'est même la présidente de la Commission européenne qui ouvre cette brèche. Pour Ursula von der Leyen, la règle des 3% de déficit maximum doit être assouplie, plus flexible. L'idée, c'est d'exclure les dépenses militaires du calcul. Cela permettrait aux États membres, explique Ursula von der Leyen, d'augmenter substantiellement leurs investissements en matière de défense. Cette flexibilité est déjà prévue dans les traités européens en cas de menace grave. Pour appliquer ce changement de règle, les États membres devront donner leur accord à une large majorité, majorité qualifiée. L'Italie a déjà appuyé cette proposition, tout comme la France, qui estime que les règles budgétaires actuelles sont obsolètes, mot employé par Emmanuel Macron. Et puis, plus surprenant, en Allemagne, l'INE fait son chemin en pleine campagne électorale. Faut-il réformer la constitution allemande, qui interdit quasiment tout endettement supplémentaire? Eh bien, le favori des sondages, le conservateur Friedrich Merz, se dit ouvert sur la question.
Frédéric Seitz. Il y a un an, jour pour jour, mourait Alexei Navalny, principal opposant au régime de Vladimir Poutine. Il est mort dans un camp russe isolé. Eh bien, ce matin, à Moscou, plusieurs centaines de ses partisans se sont recueillis sur sa tombe, malgré le risque de représailles judiciaires. Julian Colling, vous êtes en duplex du cimetière de Moscou. Il y a plusieurs centaines de personnes.
Oui, effectivement, de manière assez étonnante, hein, il y a beaucoup de monde actuellement présent donc dans ce quartier du sud de Moscou, hein, où est enterré Navalny, donc au cimetière Borisov, et une file d'attente même sur plusieurs centaines de mètres, hein, ce qui est assez surprenant, puisqu'effectivement, on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de monde défiler aujourd'hui. On sait que les autorités russes, également différents canaux Telegram, hein, pro-Kremlin, avaient menacé assez ouvertement les gens qui, d'aventure, voulaient se rendre donc sur sa tombe pour rendre hommage à Navalny, en disant « n'y allez pas, ce n'est pas une bonne idée pour vous ». Et bien, malgré ces menaces, les gens ont bravé donc visiblement cette ambiance un peu délétère et sont venus en masse aujourd'hui dans plusieurs villes également de Russie, hein, en région aussi. Pas mal de gens sont rendus sur les mémoriaux donc des répressions politiques pour également rendre hommage à Navalny. Et donc sur sa tombe, on peut aussi dire que ses parents, la mère de Navalny notamment, qui est assez connue désormais en Russie, ses parents sont venus sur sa tombe il y a quelques minutes, environ une heure, et ont été accueillis par les vivas de la foule et des merci pour votre fils, je cite.
Julian Colling, en direct, en duplex du cimetière de Moscou, près de la tombe de Navalny ce matin. Donc la veuve d'Alexei Navalny, Lulia Navalnaya, qui a repris le flambeau de l'opposition, a posté une vidéo dans laquelle elle appelle ses partisans donc à poursuivre la lutte pour une Russie qu'elle souhaite libre et pacifique. L'Autriche s'est réveillée ce matin sous le choc d'une attaque au couteau dans le sud du pays. Attaque qui a coûté la vie à un adolescent, blessé 5 autres personnes. Le tueur et agresseur présumé est un demandeur d'asile syrien de 23 ans. Il a été arrêté. Attaque islamiste, a précisé ce matin le ministre autrichien de l'Intérieur.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
La page politique avec en perspective la semaine prochaine la journée de mercredi. Nouvelle motion de censure contre François Bayrou, motion déposée par le PS au nom, je cite, d'une trumpisation du gouvernement depuis que François Bayrou a parlé de sentiment de submersion migratoire en France. Et finalement, le Rassemblement National, qui ne s'était pas encore prononcé, ne votera pas cette motion. Thomas Ménager, le porte-parole du groupe RN, l'a expliqué ce matin sur France Inter.
Non, nous ne la voterons pas parce que le Parti Socialiste l'a déposée pour une seule et unique raison, contester les propos de bon sens, même s'ils sont insuffisants, du Premier ministre qui a parlé d'un sentiment de submersion migratoire. En fait, cette censure, elle est symbolique de la gauche qui, contrairement aux gauches européennes, ailleurs, on voit au Danemark, a pris conscience que l'immigration était un problème, qu'il fallait arrêter de mettre la poussière sous le tapis et vraiment agir. On voit que la gauche continue à fermer les yeux sur l'immigration et veut censurer le gouvernement sur cette base. Il y aura peut-être d'autres occasions de censurer le gouvernement. Nous, on ne se l'interdit pas dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, si ça permet de protéger les Français pour bloquer un texte ou parce qu'il y a un élément, un propos qui est tellement contraire à ce que l'on porte qu'il faudra censurer ce gouvernement, mais l'heure n'est pas venue.
Le député RN du Loiret, Thomas Ménager, invité ce matin de la matinale d'Inter. La politique ce dimanche, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui enterre pour de bon l'alliance des Insoumis avec le PS. Longue interview du leader LFiste ce matin dans la Tribune dimanche. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet.
Bonjour.
Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po. Les socialistes ne sont plus nos alliés, dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce une posture jusqu'aux prochaines élections municipales, présidentielles, ou bien est-ce que ça annonce ce matin une réelle recomposition de la gauche ?
C'est une recomposition de la gauche pour une simple raison, c'est que tout à gauche devrait inciter à l'union, les prochaines municipales et puis la prochaine présidentielle. Donc le fait qu'on annonce une rupture, le fait que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui le fasse, tout ça indique au contraire une situation très sérieuse et une recomposition avec deux pôles séparés et les filles qui finalement actent le fait qu'il est isolé et qui prend l'initiative de le faire plutôt que de le subir d'une certaine façon.
Et alliance toxique avec le PS, dit ce matin Jean-Luc Mélenchon, mais cette toxicité, c'est aussi ce que laisse entendre le socialiste François Hollande à propos de Jean-Luc Mélenchon. Une partie des socialistes le trouve décidément trop clivant.
Oui, c'est un grand classique, c'est accuser les autres de ce dont on est soi-même accusé. Donc Jean-Luc Mélenchon est accusé d'être toxique pour énormément de raisons par le Parti Socialiste. Et donc lui-même se prend de dire que ce sont les socialistes qui sont toxiques. C'est une inversion de l'accusation qui est assez classique chez les leaders comme Jean-Luc Mélenchon.
Ce matin, on apprend que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, réclame un congrès du PS. Ce sera au mois de juin. Olivier Faure qui d'ailleurs se présentera à sa succession après 7 ans à la tête de sa formation politique. On parlait de recomposition de la gauche. Est-ce que Olivier Faure sera fortement contesté par une partie du PS, notamment les hollandistes ?
Alors Olivier Faure, il a quand même donné des gages aux hollandistes et à tous ceux au PS qui souhaitaient un détachement de LFI. Donc je dirais qu'il a plutôt joué intelligemment en homme de synthèse lui aussi la séquence. Le problème c'est qu'il a des gens en face de lui qui sont eux-mêmes ont des ambitions pour 2027. Il n'est pas exclu que François Hollande en ait, par exemple. Et la vieille garde socialiste aimerait beaucoup reprendre le pouvoir et le contrôle du parti, reprochant à Olivier Faure justement toute cette séquence d'alliance du NFP.
On parlait des élections et je reviens au couple, enfin le couple divorcé LFI socialiste. Aux prochaines municipales, qui a besoin de l'autre entre les LFistes et les socialistes ?
Alors les municipales ça vont se passer avec beaucoup d'alliances locales a priori, donc les socialistes ont surtout besoin des écologistes qui ont marqué énormément de points lors des dernières municipales et qui restent à confirmer mais qui ont quand même beaucoup progressé. Le socialisme municipal est mort maintenant il y a très longtemps, mais ils peuvent s'appuyer sur les écologistes. Ça va être beaucoup d'alliances locales. Et puis, il y a un gros, gros phénomène qui est prévu pour 2026. C'est le sortez les sortants. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que pour les sortants, ce soit extrêmement difficile. Donc, on risque d'avoir une carte de toute façon très complexe.
Je rappelle que vous êtes professeur de communication politique. Un mot, s'il vous plaît, sur la communication de crise de François Bayrou, empêtré dans l'affaire de Notre-Dame de Bétarame. Je précise que les explications hier du Premier ministre n'ont toujours pas convaincu les insoumis qui continuent donc de lui réclamer des comptes. Pas convaincante, la communication de François Bayrou hier?
Alors François Bayrou, le problème pour lui, c'est que c'est une crise dans la crise dans la crise. Donc il a énormément de sujets de ce type à gérer. Et il a un problème avec sa communication, c'est qu'il a, visiblement dit des choses inexactes qui ont été contredites par Mediapart. Il a été ensuite ciblé par la gauche de manière extrêmement forte. L'extrême droite s'est réveillée hier avec Jordan Bardella. Et il s'en sort pas très bien parce que il communique... il a d'abord passé par une phase de déni, comme beaucoup d'hommes politiques, quand on leur reproche quelque chose, qui est assez mauvais. Il vaut mieux reconnaître les faits, reconnaître éventuellement des fautes et s'amender. Mmh. La deuxième partie de sa communication est meilleure parce qu'il est en train d'essayer de construire une sortie par le haut en expliquant qu'il va agir sur le terrain de la protection de l'enfance. Et il faut savoir qu'il y a une opportunité pour lui, entre guillemets, qui ferait du bien à tout le monde et qui permettrait de donner du sens, en tout cas, à cette séquence, c'est de redonner des moyens à l'aide sociale à l'enfance. Il y a un projet qui a été bloqué par la dissolution. On pourrait imaginer que de ce mal absolu ce qui s'est passé dans cet établissement scolaire.
En fait, c'est le ministère, à l'enfance qui a disparu, mais qui était remplacé par un grand médiateur chargé de cette enfance. Vous disiez mauvaise communication de crise pour François Bayrou. Pourtant, malgré les nombreuses choses trappes, François Bayrou profite encore d'opinions assez favorables, si l'on en croit les dernières enquêtes. Ce n'est pas contradictoire?
Non, il progresse et et le chef de l'État aussi. Alors pour une raison simple, c'est que tout le monde, c'est aussi ça qui explique la position du RN au passage, qui ne va pas voter la censure, tout le monde est en faveur de la stabilité. Les Français, les partis, les corps intermédiaires, syndicats, patronats qui ont signé une tribune historique ensemble dans ce sens. Et François Bayrou est parvenu à instaurer un semblant de stabilité sur un fond de crise permanente. Encore renforcé par cet épisode, mais il a instauré un semblant de stabilité.
Merci.
Et ça, les Français y tiennent.
Merci beaucoup de ces commentaires. Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. La page des sports à présent, avec les mondiaux de biathlon. Nous partons en Suisse. Et il y a quelques minutes, la poursuite femme avec trois Françaises qui visaient des médailles. Jérôme Val, vous êtes en direct de Lenzerheide en Suisse. La Française Justine Brazaz-Boucher visait l'or. Elle devra se contenter du bronze.
Oui, mais c'est une très belle troisième place pour la Savoyarde. Franchement, Justine Brazaz-Boucher qui a été sacrée il y a deux jours sur l'épreuve du sprint et qui récolte donc une deuxième médaille en deux courses. Elle est très belle cette performance parce que devant, c'était injouable pour elle et notamment pour celle qui s'est imposée, Franziska Preuß, l'Allemande, qui a fait vraiment une course incroyable, tout en maîtrise, 20 sur 20 au tir, aucune faute. Et sur les skis, elle était supersonique, donc impossible d'aller la déloger de cette première place. La deuxième place, c'est Elvira Öberg qui a fait également, la Suédoise, une très belle performance. Et donc, une troisième place, on va dire, assez logique pour Justine Brazaz-Boucher qui a été décorée tout à l'heure sur le podium avec cette médaille de bronze. Tout sourire parce que c'est une nouvelle médaille mondiale pour la Savoyarde. À la quatrième place, Lou Jean Monod, là aussi une Française. Pour le reste de l'équipe de France, beaucoup de déceptions. Mais en tout cas, on garde le rythme du côté des Bleus avec, depuis le début de ces mondiaux ici à Lenzerheide, une course, une médaille au moins à chaque fois. Ce n'est pas fini pour ce dimanche parce qu'il y a maintenant la poursuite masculine. Et là, Quentin Fillon-Maillet, qui avait été en bronze lui aussi hier sur le sprint, peut aller croire également à une chance d'aller monter sur le podium.
Eh bien, on suivra ça dans nos prochaines éditions. Jérôme Val, en direct de Suisse à Lenzerheide. On termine avec cette belle histoire. Un célèbre bronze de Camille Claudel qui sera vendu cet après-midi aux enchères à Orléans. L'œuvre est estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros. Faustine Calmel, ce bronze a été retrouvé par hasard dans un appartement.
Cette œuvre, c'est un groupe en trois parties. Un homme d'âge mûr, figure de Rodin, emporté par une vieille femme et agenouillé, bras tendu vers lui. Une jeune femme au trait de Camille Claudel. Œuvre comme en équilibre que Mathieu Semont, commissaire priseur, découvre en septembre dernier, donc dans un appartement inhabité depuis plus de 15 ans, dont il vient pour faire l'inventaire. Il le raconte à Ici Orléans.
Cette sculpture était dans cet appartement parisien, sous un drap. Elle ne m'avait pas été du tout annoncée comme étant de Camille Claudel. Au Monde, on n'en connaissait que 3 exemplaires. Donc c'est la 4e de ce groupe mythique qui s'appelle L'Âge Mûr, qui a été créé par Camille Claudel peu après sa rupture avec Rodin. Et là, dans cet appartement parisien, je suis tombé sur quelque chose qui avait disparu depuis plus d'un siècle et dont on ne connaissait pas la localisation.
Mathieu Semon reconnaît immédiatement l'œuvre et l'implorante pour l'avoir étudiée 25 ans plus tôt.
Ce qui est toujours singulier pour un commissaire-priseur, c'est de tomber sur l'objet mythique qu'on ne cherche même plus parce qu'on ne sait même plus où il est, et d'un seul coup d'arriver à le découvrir, c'était une émotion énorme. Et puis après, pour l'histoire de l'art aussi, c'est quelque chose de très important, donc c'est une œuvre qui va susciter beaucoup d'intérêt.
Les 3 autres exemplaires sont exposés à Orsay, au musée Rodin à Paris, au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Marne. Nul doute que celui-ci pousse cet après-midi, cette statue-là pousse cet après-midi les acheteurs à quelques folies.
Et les enchères cet après-midi à Orléans. Faustine Calmel. Le temps.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec un soleil plutôt voilé cet après-midi.
Oui, un voile plus ou moins épais, et ça quasiment partout. On a quelques zones quand même où ce sera un petit peu plus lumineux, des Hauts-de-France jusqu'en Alsace en passant par le bassin parisien, ou encore du sud des Alpes à la Corse et sur les Pyrénées. Partout ailleurs, ce sera donc un soleil bien voilé, avec même une perturbation faiblement pluvieuse qui gagnera la Gironde en fin de journée. On aura quelques gouttes et qui se décalera la nuit prochaine vers les régions situées au sud de la Garonne.
Et les températures grimpent un peu.
Oui, on gagne quelques degrés par rapport à hier, avec une moyenne de 6 à 11 degrés pour la moitié nord, 7 degrés à Paris, 8 à Caen, 11 à Bourges ou Brest. Pour la moitié sud, on sera encore 3 à 8 degrés au-dessus des normales de saison, avec 10 à 20 degrés en moyenne. Les valeurs les plus douces seront une nouvelle fois pour le sud-ouest, avec 20 degrés attendus à Tarbes ou à Auch.
C'était Céline Dacosta.